coq chanté, jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons voir le circuit de production des céréales du céréalier au moulin en Seine-et-Marne avec les responsables et les techniciens de l'Association Générale des Producteurs de Blé, ceux de la coopérative agricole Val-France et ceux des grands moulins de Paris à Verneuil-l'Étang. D'un point de vue mondial, les céréales représentent la base de l'alimentation humaine, mais également animale. Chaque continent a sa céréale de prédilection, le riz en Extrême-Orient, le blé et l'orge de l'Inde à l'Atlantique, le seigle et l'avoine en Europe occidentale, le maïs en Amérique, le millet et le sorgho en Afrique. Depuis plus d'un siècle, la consommation des céréales est en baisse dans les pays industrialisés. Toutefois, elle demeure importante dans les régions moins favorisées, où les céréales sont la principale source de l'apport énergétique et assurent jusqu'à 90% de l'apport en protéines, contre 25% dans les pays industrialisés. En 2016, 706 millions d'hectares de céréales ont été cultivés dans le monde, soit 50% des terres arables, 14,4% de la surface agricole mondiale et 5,4% des terres émergées du monde, et 2,6 milliards de tonnes de céréales ont été produites. En France, le monde des céréaliers est organisé dans le cadre de l'Association Générale des Producteurs de Blé ou AGPB. Créée en 1924, cette Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales est un syndicat professionnel agricole membre de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles ou FNSEA. L'AGPB regroupe les producteurs de blé et autres céréales. Disons que ce travail d'organisation répondait à de nombreux besoins, surtout parce que la production des céréales occupe une place importante dans l'économie nationale.
À quel jour nous mettons ? Parce que...
Notre périple commence au siège de l'AGPB à Paris, où nous avons rendez-vous avec Philippe Benta, qui est agriculteur et président de cette association.
D'abord, nous produisons en France 70 millions de tonnes de céréales, hein, toutes céréales confondues. Nous en exportons la moitié. Et nous en exportons de moins en moins vers l'Union européenne et de plus en plus vers les pays tiers, hein, donc sur le continent africain pour la plupart, mais que nous avons aussi des concurrents qui sont notamment les pays de la mer Noire, je pense à la Russie et à l'Ukraine, voilà, qui eux en sont à leur cinquième bonne année d'affilée, ce qui est très rare parce qu'ils ont un climat très propice en ce moment, donc on semble être moins continental que nous. Voilà. Donc nous, c'est un peu plus compliqué, mais en France, les céréales, c'est le quatrième secteur de la balance commerciale française en positif. Vous avez l'aéronautique, le cosmétique, et ensuite viennent presque ensemble les vins spiritueux et les céréales. Voilà. Donc c'est un secteur qui peut dégager environ 9 milliards d'euros de balance commerciale positive tous les ans. C'est quelque chose qu'il faut au contraire propulser davantage sur la scène internationale parce qu'il y a des besoins criants dans le monde. Vous savez que la population va augmenter et pour autant, la surface des terres cultivées ne va quasiment pas augmenter.
Au contraire, ça risque de diminuer parce que là, on est en train de déforester, de tout foutre en l'air, les érosions un peu partout dans le monde.
Oui, mais on peut penser que globalement, la surface va rester la même entre ce qui pourrait disparaître et ce qui pourrait se remettre en culture. Donc, ce qui veut dire que la seule porte de sortie, c'est l'augmentation des rendements hectares. Et de chaque pays, dans chaque continent, doit avoir cette politique-là, justement pour pouvoir satisfaire tous les besoins. Et nous, en particulier en France, voilà, on a un vrai savoir-faire, on veut encore être meilleur demain qu'on l'est aujourd'hui.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le pain que je mange à Dakar ou à Beyrouth, il y a de fortes chances qu'il vienne de vos champs.
J'espère. Comme vous me paraissez en bonne santé, j'en suis même sûr. Mais ça fait partie aussi de notre éthique. Quand on est agriculteur, on est là pour produire et nourrir les hommes. Et ça s'arrête pas au canton, ça s'arrête pas au département ni à la France, ça doit franchir les frontières s'il y a des besoins qui sont à fournir, et ce qui est le cas notamment par exemple du Maroc, de l'Algérie et de plus en plus comme au Cameroun par exemple. Donc vous êtes le porte-parole des céréaliers de France, mais bon, il y a combien de producteurs dans votre organisation ?
En France, ce qu'on appelle les producteurs spécialisés en céréales, il y en a à peu près 80 000. Donc dispersés sur tout le territoire, ils ne font pas que des céréales, mais qui sont quand même sont suffisamment pour être considérés comme spécialisés.
Merci.
Merci.
Ils sont venus sans savoir ma chanson. Ils ont vu toutes les terres.
C'est en autocar que notre groupe quitte le siège parisien de l'Association Générale de Production de Blé pour rejoindre l'exploitation de Philippe Hussel en bordure de la ville de Meaux. D'abord, le mot de bienvenue de Philippe Pinta. Je rappelle qu'il est président de l'Association Générale des Producteurs de Blé.
Bien, ben d'abord, je vous remercie, monsieur le journaliste, d'avoir accepté notre invitation. Je veux surtout remercier Philippe Hussel de nous recevoir. Avec un de ses associés, et voilà. Nous avons choisi cette exploitation pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'est pas trop loin de Paris. Ensuite, on a voulu vous montrer une exploitation. Une grande partie de ce qui est produit ici est vendu à proximité. C'est-à-dire que vous avez en céréales, on a la moitié de notre production qui est exportée, voire un peu plus, et l'autre moitié qui est consommée en France. Notamment, donc on a voulu mettre l'accent aujourd'hui plus sur la partie 50% consommée en France, pour arrondir les chiffres. Hein. On a 5 millions de tonnes de blé qui vont à l'alimentation humaine, 5 millions de tonnes à l'alimentation animale, 3 millions de tonnes à la midonnerie, et à peu près 1,5 million de tonnes, par exemple, dans les biocarburants. Vous verrez, Philippe va vous expliquer qu'il contractualise une grande partie de ses productions, et notamment la partie céréales, avec la coopérative que l'on verra en début d'après-midi, qui elle-même contractualise avec le moulin qui est tout près de la coopérative. Voilà. Cette exploitation, particularité, c'est une exploitation donc du grand bassin parisien, une exploitation donc plutôt avec des terres qui ont un potentiel supérieur à la moyenne nationale. On est plutôt dans les bonnes terres, on va dire. Il y a encore mieux, hein, je pourrais vous montrer encore mieux. Il y a des bonnes terres sur lesquelles on peut faire beaucoup de production, et puis il y a une partie de terre sur laquelle le nombre de productions est réduite parce que le sol, la terre ne le permet pas, cette diversification. Et ici, c'est une exploitation très diversifiée, dans lequel vous allez rencontrer des productions qu'on voit pas beaucoup, je pense au chanvre notamment. Il y a même du lin, on a l'habitude de voir ça plutôt dans la Grande Normandie, voilà, des pommes de terre, du blé bien entendu, qui est une grande partie de l'assolement, entre autres, et toutes ces productions, compris betteraves et autres, sont contractualisées en très grande partie.
Paysan, tu es, paysan, tu seras, la chaleur, l'été. Et l'hiver, le froid.
Une exploitation, c'est avant tout un concentré de problèmes à résoudre. D'abord, ce type d'exploitation, c'est ce que les techniciens en agriculture appellent un GAEC. GAEC, ça veut dire Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, donc une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun. Avec son frère et son cousin, Philippe Hussel exploite 400 hectares à Choconnet Neufmontier. Comme ses collègues de Seine-et-Marne, souvent à la tête d'imposantes exploitations, il cultive surtout des céréales et des oléoprotéagineux.
On est, enfin moi et mes frères et cousins installés depuis 1992 sur cette exploitation, donc qui faisait à l'époque 350 hectares et qui a évolué à 408. Donc effectivement, dans la moyenne des exploitations, on va dire par tête de pipe, par exploitant, dans la moyenne des exploitations de la région, exploitation essentiellement production végétale, même si dans le passé il y a eu de la production animale. Quand on s'est installé, on avait des poules pondeuses notamment. Donc avec un assolement basé sur de la céréale quand même, puisque ici on est en bordure de l'Abri. L'Abri, ça fait 2000 ans qu'on cultive, plus de 2000 ans qu'on cultive du blé. C'est la production effectivement majeure, des orges de printemps pour les brasseries, on en verra un petit peu, mais aussi, comme Philippe l'a dit, des têtes de rotation, des cultures type betterave à sucre, pommes de terre de consommation. Lin, chanvre, c'est les différentes têtes d'assolement qu'on a sur l'exploitation, avec, comme ça a été évoqué, deux sites d'exploitation, on va dire. Le site historique que vous voyez sur la carte du haut, qui s'appelle Choconin, donc c'est le nom du village, avec, vous voyez en photo là, le plan de la ferme, hein, la cour de ferme, et puis le plan des parcelles, des différentes parcelles qu'on exploite, assez groupées autour de Choconin, donc là on a 305 hectares, et puis un autre site qui est de l'autre côté de Meaux, qui est une exploitation qu'on a reprise quand on s'est installé, ou juste après, qui a la particularité d'être sur des terres complètement différentes. Ici, à Choconin, on est plutôt sur des argilos, enfin des sols argilo-limoneux profonds. À Fublaine, on est sur des argilo-calcaires superficiels, séchants, et en partie inondables, parce que ce que vous... Excusez-moi.
Ah oui, non, mais je vous suis.
Ce que vous voyez ici, c'est la Marne.
Hein,
ah oui, d'accord. La Marne, voilà, qui se jette dans la Seine, et puis qui continue après plus loin. Donc, ici... La problématique de l'eau qui passe, c'est quelque chose d'important. La problématique des types de sols, c'est quelque chose d'important. Et ce qu'on peut faire comme type de production dans ces sols-là, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que autant les céréales sont quelque chose qui s'adapte assez bien à tout type de sol, autant les autres cultures, type culture légumière ou voire lin, nécessitent des sols suffisamment profonds, suffisamment riches, on va dire, pour pouvoir être exploités dans ces cultures-là.
Paysan, tu es, on ne te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plantera.
Tout à l'heure, on a parlé de bonne terre, de moins bonne terre. C'est quoi une bonne terre ?
Alors, une bonne terre, ici, c'est une terre qui a suffisamment de profondeur. Une bonne terre, pour nous, c'est une terre qui a entre 20-25% d'argile, 60% de limon et un petit peu de sable simplement, donc qui retient bien l'eau. Là, cette année, elle a du mal à tout retenir en ce moment, effectivement, mais globalement, c'est une terre qui a une structure qui permet d'être une vraie éponge. Hein. Donc qui retient les éléments nutritifs, qui retient l'eau et qui permet donc à la plante de se développer sur un substrat naturel avec du potentiel, on va dire. Les plantes sur un sol comme ça vont se développer harmonieusement et bien. Par contre, sur une terre légère ou une terre plus séchante, par exemple, un argilo-calcaire comme il y en a ici, eh bien, on est arrivé à ces époques-ci, classiquement, avec un coup de chaleur, on est sur des cultures qui vont mûrir très vite, qui vont tourner de l'œil et qui n'exprimeront pas leur potentiel, voyez. Donc, ça se gère complètement différemment au niveau de l'exploitation, au quotidien, dans le soin qu'on apporte aux cultures, dans le type d'engrais qu'on doit mettre ou ne pas mettre, et puis, au départ, dans le choix des cultures, dans la rotation des cultures, etc.
Donc, c'est un dosage de trois éléments, en fait.
Donc ça conditionne effectivement, les sols conditionnent beaucoup de choses dans nos prises de décision au quotidien, que ce soit pour les cultures qu'on peut cultiver, pour les techniques qu'on emploie, pour l'équipement, le matériel qu'on doit avoir ou ne pas avoir, qu'on doit utiliser ou ne pas utiliser. Avec l'expérience en tout cas, qu'on maîtrise assez bien, on fait en sorte que tous les jours la météo nous profite quelque part, nous profite à nos cultures. Mais il y a surtout les aléas économiques, on va dire, ou les incertitudes économiques. Je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé en 92, on était dans un certain cadre économique qui a beaucoup évolué. On va en revenir. On était aussi avec des moyens de production qui étaient assez divers et variés, qui se réduisent. Comme peau de chagrin, et ça, on va voir en pleine le type de problème que ça peut poser. Et puis on était aussi, quand on a commencé, avec une réglementation qui était somme toute assez simple et qui se complexifie d'année en année, qui nous oblige à être la plupart du temps, au moins aussi souvent, au bureau pour être raccord avec cette réglementation, être bien sûr que toute paperasse, entre guillemets, qu'on doit remplir est faite et bien faite pour ne pas risquer telle ou telle sanction ou telle ou telle désapprobation, soit de nos clients, mais ça c'est compréhensible, hein, puisqu'on va en reparler tout à l'heure, nos clients ont des exigences, ils les écrivent et puis nous on transcrit ces exigences dans nos productions, soit de la réglementation, et là c'est parfois un peu plus compliqué à comprendre en fait. Hein. Ce que je voulais dire simplement peut-être par rapport à tout ça, c'est que nous, on a plutôt choisi une stratégie de limiter nos risques par rapport à toutes ces incertitudes-là. Donc, Philippe évoquait le fait qu'on soit regroupé en GAEC. Ça, c'est une première façon de limiter son risque en agriculture. C'est-à-dire, on est plusieurs exploitants. On n'est pas un seul ou deux. On est trois plus un salarié, donc quatre exploitants, quatre personnes à pouvoir se relayer éventuellement, à pouvoir, en ce qui me concerne, avoir suffisamment de monde pour pouvoir assurer le travail. Donc ça, c'est important. C'est pas tous les jours évident à vivre parce que chacun a son tempérament, mais c'est une sécurisation de l'exploitation. La deuxième sécurisation, peut-être, c'est qu'on a des rapports très serrés avec notre coopérative. Et globalement, d'une manière générale, nos mises en marché, la vente de nos produits, on va revenir sur les différents produits, se fait beaucoup sous forme de contrat.
Donc des contraintes agronomiques qui relèvent de la nature du sol et de la météo et des contraintes économiques qui relèvent des aléas du marché. De même que l'organisation en GAEC permet de faire face aux contraintes à l'intérieur d'une exploitation agricole, la structuration en coopérative permet de faire face aux contraintes extérieures. On comprend donc pourquoi l'exploitation de Philippe Echel fait partie de la coopérative Valfrance, qui regroupe 1376 fermes modernes qui cultivent les grandes plaines céréalières fertiles et historiques du Valois et de la Brie. Les explications de Christophe Grison, président de Valfrance.
Alors la coopérative Valfrance, c'est une coopérative donc d'agriculteurs dont le siège social est dans l'Oise à Senlis, mais néanmoins nous avons 31 silos qui vont de Fontainebleau jusqu'à Senlis, Pont-Sainte-Maxence. Donc nous sommes à l'est de Paris.
C'est une histoire qui a commencé en 1931-32, vous avez dit?
Tout à fait, tout ça c'est parti d'une petite coopérative à Senlis d'agriculteurs en 1932. Et puis au fur et à mesure des années, cette coopérative a grossi en se rapprochant d'autres coopératives, en grossissant par des fusions. Et maintenant aujourd'hui ça s'appelle coopérative Valfrance. Il y a 1367 agriculteurs.
Ah oui, d'accord. Cette coopérative s'occupe de quoi? Je veux des semences, je veux des silos.
Alors cette coopérative s'occupe essentiellement de collecter la moisson des agriculteurs, si vous voulez, et de vendre leur production tout au long de l'année de manière à payer les agriculteurs de leur moisson, de leur travail. Donc on collecte 800 000 tonnes environ, suivant les années, entre les bonnes années où on fait 850 000 tonnes et les mauvaises années, comme en 2016 où on a une moisson assez catastrophique, on a fait moins de 500 000 tonnes.
Ah, c'est-à-dire que vous, bon, moi, agriculteur, j'apporte ma moisson et vous regardez ce qui est semence, ce qui va à la meunerie, ce qui va pour d'autres destinations.
En fait, vous avez des contrats avec la coopérative et donc quand vous livrez votre blé à la moisson, en fonction de la variété, on va la mettre dans des cellules qui appartiennent à la coopérative. On va stocker le grain tout l'hiver et on va revendre ce grain au meunier, au partenaire meunier ou à la midonnerie pour faire de l'amidon ou éventuellement pour l'exporter vers les pays du Maghreb, notamment le Maroc, la Tunisie. Et en fonction des ventes de la coopérative, on va vous donner un acompte à la moisson, un acompte financier pour que l'agriculteur puisse payer ses charges. Et tout au long de l'année, on va vendre le blé. Et à la fin de l'année, lorsque le blé, on va faire les comptes, si vous voulez, avec le conseil d'administration de la coopérative, et on va redonner des compléments de prix à l'agriculteur. Et là, par exemple, la semaine dernière, le 10 juin, le conseil d'administration a décidé de redonner 15 euros la tonne en complément de prix qui a été payé la semaine dernière. Donc l'agriculteur avait eu un acompte de 125 euros à la tonne au mois d'août de l'année dernière, et là, on a redonné 15 euros supplémentaires. Donc au final, l'agriculteur a été payé 140 euros pour la moisson 2017.
Disons que ce stockage vous permet à vous, coopérative, de bénéficier des conjonctures du marché ou en tout cas de négocier un meilleur prix.
Ça nous permet surtout de ne pas vendre tout à la moisson, puisque bah, forcément le prix peut être mauvais éventuellement au mois d'août. Ça nous permet aussi de faire des maquettes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des mélanges. On va mélanger certaines variétés de blé, notamment pour nos partenaires meuniers qui veulent un mélange de blé à hauteur de 5 à 6 variétés différentes. Donc on fait des maquettes, et une fois que la maquette est validée par le meunier, on peut vider des silos complets pour qu'ils fassent du pain.
Est-ce que vous appelez maquette, par exemple, vous prenez telle variété, vous faites un dosage suivant des spécificités que le client vous demande?
Chaque variété de blé, en fait, a des caractéristiques techniques. Par exemple, certaines font la farine plus blanche, d'autres, c'est l'élasticité de la pâte. Donc, si vous voulez, en mélangeant ces variétés, on arrive à avoir une qualité de pain qui est beaucoup plus sécuritaire pour l'industriel qui, lui, veut pas avoir un jour du pain qui est mou, le lendemain, un pain qui est dur, le lendemain, un pain qui est un peu trop doré, vous voyez. Donc, le fait de faire des mélanges, ça permet d'avoir une farine beaucoup plus, uniforme.
Moi, depuis ce matin, j'ai vu une force dans les agriculteurs, en tout cas de cette région que nous venons de visiter, c'est l'organisation. C'est-à-dire, à aucun moment, un producteur n'est tout seul, il est toujours épaulé par quelqu'un.
Donc moi, en tant qu'agriculteur, je vais planter, semer, si vous voulez, du blé au mois d'octobre. Donc là, pour ce faire, j'achète des semences de blé, je les achète à ma coopérative Valfrance. Après, tout au long de l'année, donc du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet, je vais suivre ma culture. Donc c'est-à-dire, je vais aller dans les champs, je vais faire des tours de plaine, ce qu'on appelle, pour surveiller si la plante est malade, si la plante a besoin de, si elle a faim, donc si elle a besoin d'azote pour la nourrir. Et donc je vais faire tout un suivi. Avec des analyses aussi. Et là-dessus, le technicien de la coopérative va venir en appui. Il va venir faire des tours de plaine avec moi pour m'aider dans le conseil. Et on va soigner la plante, entre guillemets, avec des produits phytosanitaires, mais uniquement en dernier recours. C'est-à-dire, on fait pas du systématique, on fait pas de l'intensif. On fait vraiment ce qu'on appelle une agriculture raisonnée. C'est-à-dire, on s'interdit pas de traiter la plante, mais c'est toujours en dernier recours. Et pour ça, le technicien de la coopérative est d'un grand recours.
Quand c'est vraiment nécessaire.
Quand c'est vraiment nécessaire. Mais vous-même, monsieur, si vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Au début, c'est pas grave, vous n'allez pas aller voir le médecin. C'est vraiment quand, au dernier moment, vous dites « bon, je suis vraiment malade », et là, peut-être qu'on passera aux antibiotiques. Mais c'est pareil dans l'agriculture. On suit la plante, on dit « tiens, il y a des insectes ». S'il n'y en a pas trop, c'est pas la peine de traiter. Par contre, si vraiment les insectes sont vraiment proliférants, là, on va peut-être être obligé de sortir un insecticide. Mais c'est toujours en dernier recours. Et en plus, parfois, maintenant, on utilise des produits alternatifs qu'on appelle les produits de biocontrôle. On n'est pas toujours obligé d'utiliser une solution chimique. On a d'autres solutions aujourd'hui qui s'offrent à nous, comme par exemple la des trichogrammes. Alors les trichogrammes, ce sont des petits insectes qui eux-mêmes vont aller enquiquiner les autres insectes, si vous voulez. Donc par ce procédé biologique, eh bien on lutte contre les insectes sans utiliser de produits phytosanitaires.
Et évidemment, la récolte, je sais que la coopérative est là.
Alors à la récolte, il y a deux solutions. Soit vous n'avez pas de stockage sur votre ferme, et dans ce cas-là, vous livrez à la coopérative. La coopérative Valfrance va stocker votre blé toute l'année et va vous rétribuer pour la livraison l'été. Ou soit vous stockez votre céréale chez vous, dans votre ferme, si vous avez des silos. Et dans ce cas-là, la coopérative peut vous prendre votre blé au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Et dans ce cas-là, vous aurez une prime supplémentaire pour le stockage chez vous, agriculteur.
D'accord. À tout moment, je bénéficie de ce maillage-là que vous avez tissé à travers tout le territoire. Et vous avez cité une des forces de cette coopérative Valfrance, il y a la péniche, et il y a le camion, et il y a le rail.
On peut effectivement sortir nos céréales de nos cellules tout au long de l'année par trois modes que sont la péniche. On peut charger des péniches sur la Marne, la Seine et l'Oise. Ça nous permet d'aller à Rouen directement, sans mettre un camion. Et en plus, c'est plus économique. C'est beaucoup moins cher d'emmener du blé sur Rouen par une péniche que mettre ça sur un camion. C'est un peu plus long, mais ça coûte moins cher. Deuxièmement, on peut le faire aussi en train. Dans ce cas-là, un train, c'est 40 camions qui ne prennent pas la route. Vous vous rendez compte ? D'un seul coup, on a le remplir un train complet, c'est 40 camions au moins sur la route.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Dans la phase de production, le céréalier bénéficie de l'encadrement de l'Association générale des producteurs de blé. Pour les problèmes techniques et les questions d'organisation, il bénéficie du maillage de la coopérative Valfrance. Outre la multiplication des semences qui représente 40 000 tonnes en moyenne chaque année, la collecte annuelle de Valfrance issue de ses sociétaires est pour la récolte 2012 par exemple de 756 162 tonnes, c'est-à-dire blé, maïs, colza, orge d'hiver, pois, féroles alimentaires, etc. Et Valfrance est en relation avec les Grands Boulins de Paris, qui sont une ancienne minoterie industrielle créée à Paris lors de la Première Guerre mondiale. La minoterie parisienne vieillissante a été fermée en 1996, l'activité étant transférée à Gennevilliers et à Verneuil-l'Étang, précisément là où nous sommes. Hugues Favier, le directeur du site, nous fait visiter.
Mets ta casquette,
On va voir les moulins.
Le moulin, c'est le bâtiment qui est en pierre. Donc il y a un moulin sur ce site depuis 1880. De part et d'autre du moulin, on voit nos silos de stockage blé. Donc, c'est les silos qui sont ronds, blancs, avec le liseré bleu. Donc, il y a un bloc de silos qui est ici et un bloc de silos qu'on ne voit pas qui est derrière la tour de mélange. Et donc, on ne le voit pas là, mais c'est de l'autre côté, côté voie ferrée. Il y a un tapis qui approvisionne le blé directement depuis le silo là-bas. Donc, selon une maquette qu'on a agréée, vers nos silos de stockage blé. Donc, on y va. Quel journal ou quelle télé ? RFI, d'accord. Ok, oui, j'avais vu dans le journaliste. Donc là, on va rentrer juste après dans la partie mouture. Là, on va aller en salle de commande. Vous allez voir, il y a un peu de bruit, on ne pourra pas parler. Mais je vous expliquerai en salle de commande. Donc là, on est dans le bâtiment moulin. Donc la partie qui est derrière le mur, depuis le bas du bâtiment jusqu'en haut du bâtiment, c'est le process de nettoyage du blé. Dans le schéma que je vous ai montré, c'est la partie gauche. C'est là où on va éliminer tout ce qui est étranger au blé. Donc c'est la première étape. La partie mouture, c'est cette partie-là. Donc là, on est à l'étage de l'appareil à cylindres. C'est le fameux appareil avec les deux cylindres qui tournent à des vitesses de rotation différentes, dans des sens différents. Donc on voit dans le globe, là, celui qui est devant nous à droite, où il y a marqué B1, on voit dans le globe le blé qui a été nettoyé, humidifié, reposé, qui arrive, et il va être écrasé à travers ces deux cylindres. Le produit de la mouture va remonter, vous voyez, les quatre premiers tuyaux sur la droite, c'est du pneumatique, donc on remonte ça comme un aspirateur, les produits jusqu'en haut du bâtiment, et c'est là qu'il va être séparé selon sa grosseur. Les grosses particules vont aller sur le B2, qui est juste en face de nous, les particules un peu plus fines vont aller sur le claqueur 1, qui est à droite, au fond. Encore plus fin, ça va aller sur le claqueur 2, qui est en face, au fond, là. Et encore plus fin, ça va aller sur le C1. Et là, à cette étape-là, du premier broyeur, il y a un petit peu de farine qui va être captée dans l'étage du dessus, dans la vis à farine. Tous les autres produits, sur le B2, claqueur 1, claqueur 2, C1, c'est des produits qui ne sont pas terminés. Donc on va les réécraser, et après ça va aller sur le B3, B4, etc. quoi. Et donc on va épuiser au fur et à mesure qu'on va aller vers la fin du bâtiment, on va épuiser l'amande du blé en farine, et en fin de mouture, on récupère le son, le remoulage et la farine. Est-ce que j'ai été clair ? C'est bon. Ce que je vous propose, on va faire un peu de sport, on va monter les 5 étages, enfin 4 étages, on va aller voir les plans Sichter parce que là ça vaut le coup d'œil, c'est les armoires qui bougent, là où on va faire le tamisage des produits. C'est la tour de mélange, donc vous voyez la hauteur qu'il a, ça fait 30 mètres de haut. Il n'y a que 3 étages de production, tout le reste c'est des silos de stockage, donc c'est là qu'on va avoir toutes nos basses farines. S'il fait si chaud dans ce bâtiment-là, c'est aussi qu'on a tous nos process d'étuvage, les process un peu particuliers, donc c'est pour ça qu'il fait chaud. Et donc c'est là qu'on peut après mélanger les farines, qui sont après stockées dans les silos qu'on ne voit pas, mais on les imagine au-dessus du camion. Et là, le camion, il est en phase de chargement, donc c'est-à-dire la fabrication, elle a été faite ce matin ou hier soir, après la commande passée par notre client. Et là, bah, il va falloir, 20 minutes pour le charger, quoi. Hein. C'est du gravitaire, quoi. Ouais, c'est ça.
Nous étions au siège parisien de l'Association Générale des Producteurs de Blé et à Verneuil-l'Étang en Seine-et-Marne avec les responsables et les techniciens de la coopérative agricole Val France et des Grands Moulins de Paris qui nous expliquaient le circuit de la farine du céréalier au moulin. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante. Avant de se quitter, ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.